Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
On est pile à l'heure.
Radio Pluriel, oui.
20h00.
09, 10 secondes.
Bon, bonjour Radio Pluriel, bonjour. Bonsoir. Tout le monde.
J'ai décidé d'être viril cette année.
Ah, ouais. C'est vrai, c'est ta bonne résolution, Gérald.
Oui, voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir jusqu'au bout, mais je vais essayer.
Heureusement que tu as la barbe, parce que...
Oui.
Hein, c'est déjà ça.
Alors, donc, vous avez reconnu la voix enchanteresse de Jeff Jordan. Ah, mais oui, c'est vrai, tu viens de l'art lyrique. Tu ne chantais pas.
Hein, c'est une catastrophe.
Il vaut mieux pas. Ouais.
Cette émission commence très très mal.
Dis donc, Boris.
Donc, Boris est là aussi. Merci, merci, merci. Alors, déjà, on va dire à tout le monde bonne année.
Oui. Bonne année.
Bonne année.
Bonne
santé. I don't wanna wait for Christmas. Ah. Non, ah non, ça c'est pour Noël.
Ce morceau, ce clip incroyable de Mariah Carey. Enfin, elle était dans une soirée.
Ah, mais c'était pour le jour de l'an.
Le jour de l'an, je sais pas, mais elle avait une tenue incroyable. Incroyable.
Et puis surtout, son playback n'est pas parti. Son playback n'est pas parti.
Oui, il paraît que ça a foiré. Voilà,
elle a été scandalisée, elle est partie avant la fin.
Son playback n'est pas parti. Elle est partie avant le playback.
Du coup, elle parlait sur les bandes-son, c'était ridicule. C'est pire en pire, cette pauvre Mariah Carey. Hein.
C'est Noël.
Plus elle gonfle, plus elle nous gonfle, hein, d'ailleurs. C'est pas bon.
Hommage.
Hommage, comme dirait Yvette Leglaire.
Voilà.
C'est un hommage, c'est comme ma sœur.
Alors, du coup, eh bien, 2017 commence sous de bons auspices, sauf que... Alors, il faut quand même... comme je dis souvent ici, c'est une rubrique nécrologique, là.
Oh, quelle horreur.
L'émission, oui, parce que l'année dernière, on a quand même eu pas mal d'étoiles, de stars qui sont parties rejoindre les étoiles, justement. On a beaucoup parlé ici de David Bowie, notamment, qu'on aime bien. Et puis, George Michael aussi, qui est mort.
Oui.
Juste le 25 décembre, le soir de Noël, c'était vraiment son dernier Noël, son last Christmas. D'ailleurs, on va mettre la chanson après.
Tout à l'heure.
T'as vu l'enchaînement, on est trop fort. Ah, 2017, ça n'en
de mieux en mieux, Gérard.
Ah ouais, sans les meilleurs auspices. Donc, George Michael est mort, malheureusement. Très jeune, 53 ans.
De quoi, déjà?
Alors, on dit un arrêt cardiaque, disent les documents officiels, enfin, les dépêches officielles, on va dire.
Il était peut-être sur un lieu de drague, il a pissé sur une clôture électrique et...
Peut-être. Pourquoi? Parce que tu fais référence à la façon dont il a été outé il y a quelques années.
Oui.
Bon, en attendant.
Avec un policier en civil.
Oui. Oui, mais enfin, qui aimait bien ça quand même. Hein.
Oui, mais qui était là pour faire la chasse au PD. Ça existait encore.
Ah, d'accord.
Et du coup, il a pas résisté.
Gérald mange des noix.
Mais hommage à George Michael, parce que tu sais, il avait beaucoup grossi à la fin de ses jours. Il mangeait beaucoup trop aussi. Non, mais en fait, tu sais, il y a des traditions, des cultures où on célèbre les morts en mangeant, en fêtant, en faisant la fête.
On déterre les morts aussi dans certaines cultures.
Ah, c'est pas vrai.
Oui, oui. Et on les déterre, et puis tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, on les célèbre.
On les embaume, peut-être, pour qu'ils paraissent...
Oui, parce qu'au bout de quelques années, ils ne doivent plus avoir belle figure, quoi, je veux dire.
Oui.
Bon, on déterre les os, quoi.
Puis après, il faut tout...
Sympathique.
Bonne année.
Bonne année. Et après, on s'en sert de cure-dents, les os, non?
Mais il faut numéroter aussi pour remettre après en place, parce que... Les
os... On joue à Docteur Maboule.
Voilà. Donc, en attendant, hommage à George Michael. Nous allons écouter Last Christmas. Je ne pouvais pas
m'empêcher. Donc son...
Je
son
dédie
dernier.
À Laurence, d'ailleurs, parce que Laurence, je ne sais pas si elle nous écoute, mais Laurence...
Oh, oui, bonne année,
bonne année, Lolo.
Et à Bernardo
Bernard,
aussi, qui nous écoute.
Bien sûr.
Notre petit poisson rouge.
Voilà. Alors,
faut qu'on trouve un surnom, Boris, aussi. Hein.
Oui, bon, alors du coup, Wham.
Allez, Wham. Last Christmas. Christmas. Les vocalises de Jeffrey Jordan.
Complètement fou, mercredi soir.
C'est vrai. Alors, qu'as-tu bu avant de venir, Jeffrey?
Rien. En ce moment, de l'eau. J'ai arrêté de fumer et tout. Enfin, ah. Ouais.
Ah, c'est les résolutions.
Qu'est-ce que tu dis?
Romain qui dit non, que tu es un menteur. C'est Romain ou
Romain? Ah, mais c'est Romain qu'on vient d'entendre au téléphone. Oui.
Sa voix surgit de l'au-delà. C'est Romain qui nous a entendu. Donc, du coup.
Bonsoir, Romain.
Ouais, c'était les résolutions 2017, alors, de Jeffrey Jordan.
Eh oui.
Bien, Romain, bonsoir, bonne année, bonsoir. Romain, bonne année à toi et aux mensuels.
Et aux auditeurs et aux auditrices.
Eh oui, c'est le retour de l'émission après des vacances bien méritées, des vacances de fin d'année, et 2017, c'est reparti pour un nouveau tour. Alors, Romain, le journal, le mensuel hétéroclite, notre mensuel favori. Donc j'ai pensé intéressant de savoir, bon, déjà d'une part, comment a été conçu le premier numéro de l'année 2017, le numéro de janvier. Uh-huh. Et puis aussi, je voudrais qu'on va essayer de jouer les Madame Soleil ce soir.
Faire la météo?
Ouais, je vais sortir mes boules.
C'est pas vrai.
De cristal. Et voilà, on va faire, oui, Madame Soleil, te rappelle pas, Madame Soleil? Non, t'es trop jeune.
Ah bah non,
pas
je...
Elle faisait des prédictions en début d'année, toutes les années, à la télé, à l'ORTF.
Mmh, Madame Soleil. Ah bah non, je n'étais pas né alors. Hein.
Tu veux remplacer Catherine Laborde? Catherine Laborde a
quitté ses... Oui,
il y a un créneau à prendre.
Oui. Alors, c'est vrai que on apprend beaucoup de choses très tristes. Donc, George Michael est décédé à Noël. Laborde est partie de la télévision. Et puis, George Prêtre est mort, dis-tu, Jeffrey Jordan.
George Prêtre, voilà. C'est que personne ne sait qui c'est, Gérald.
Non, personne ne sait qui c'est.
On est pourvu un chef d'orchestre.
Mais il fallait
il vient
le dire.
De décéder, là.
D'accord.
Voilà.
Mais il fallait le dire. Hein. Après, voilà. On ne parle que des gens connus. Bon, lui peut-être était un peu connu dans le milieu lyrique, mais bon.
Oui, George Prêtre, voilà. Mm. Mm.
Bon, en tout cas, on a eu notre dose de mortalité. Maintenant, un peu de vie.
Allez, oui,
donc,
oui.
Donc, que nous propose Hétéroclite au mois de janvier? Donc, quel est un éditorial? De quoi parles-tu dans ton éditorial?
Eh bien, on parle de la mort de ce truc qui plombe.
Non, puisque l'éditorial a été écrit avant la mort de George Michael, de Carrie Fisher,
Carrie Fisher, Debbie Reynolds aussi, mère et la fille qui sont suivies dans la tombe, un peu de jour près.
C'est triste.
Moi je rigole, mais enfin, c'est vrai que c'est pas drôle.
Non, on a bouclé juste avant les vacances de Noël, là, on est parti à l'imprimeur le 23. Et donc dans l'édito, on parle d'un documentaire. Qui va être diffusé à Lyon. Alors, il y a deux dates. C'est le 17 janvier, alors notez bien, le 17 janvier au Grand Amphi de Lyon 2 à 17h et le 30 janvier à 20h30 au Périscope. C'est un documentaire qui s'appelle « Ouvrir la voie » et qui traite de l'afroféminisme. L'afroféminisme, c'est cette branche du féminisme qui cherche à analyser et à combattre les différentes discriminations que vivent les femmes noires. Ça peut être des discriminations en tant que femmes noires, des discriminations sexistes, racistes, des discriminations économiques, une oppression économique et sociale, etc. Et donc c'est un documentaire important, puisque c'est un mouvement du féminisme qui a peu de visibilité en France, et ce documentaire lui en offre une. Donc ça s'appelle « Ouvrir la voie » et c'est réalisé par une Française qui est exilée au Canada, à Montréal, qui s'appelle Amandine Gay.
D'accord.
Voilà, qui est une des penseuses et figures de ce mouvement afroféministe, avec notamment, elle a préfacé il y a deux ans l'édition française de « Ne suis-je pas une femme ?» qui a été éditée par les éditions Cambourakis, « Ne suis-je pas une femme ?» C'est un livre de Bell Hooks qui est une des grandes penseuses, mais c'est aussi américaine, de l'afroféminisme. Et donc l'édition française avait été préfacée par Amandine Gay. Donc je pense que c'est un documentaire important. Je crois que la date du 30 janvier est déjà complète, c'est le Périscope. C'est pour ça qu'il faut sans doute pas trop tarder à réserver pour aller le voir au Grand Amphi de Lyon 2 à 17h le jeudi 17 janvier.
Alors, c'est un documentaire dont tu nous parles, on est d'accord?
Oui, c'est un documentaire qui en fait donne la voix à des femmes européennes francophones afrodescendantes.
D'accord.
Donc des femmes noires qui racontent ce que c'est de vivre en tant que femme noire en Europe, les discriminations qu'elles connaissent, qu'on appelle aussi les micro-agressions, c'est-à-dire ces petits gestes qui sont parfois pas mal intentionnés, mais qui peuvent être extrêmement blessants ou frustrants. Ou le fait, par exemple, que beaucoup de femmes noires se plaignent que on veuille toujours leur toucher les cheveux, mettre la main dans les cheveux, toucher leurs cheveux parce qu'ils sont un peu crépus, etc. Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, qui a même fait une chanson dans son album paru en fin d'année dernière, qui s'appelait Don't Touch My Hair, pour dire arrêtez de me faire chier à vouloir toucher mes cheveux. Et voilà, donc c'est bon, il y a aussi des discriminations à l'emploi, au logement, etc. Enfin,
il y a des capillophobes, ça existe?
Des capillophobes, c'est pas de la phobie, des fois ça part de voilà, ça se veut bien intentionné ou quoi, mais bon, c'est un peu relou quand même.
D'accord. Voilà. C'est pas grave quoi.
Non, c'est pas grave, si tu veux, quand on, je pense que c'est la répétition qui est lassante, quoi. Et puis c'est le fait d'être vu un peu comme un objet exotique.
Du tripotage.
Oui, c'est le tripotage, oui. Et puis je fais, ah tiens, tu es bizarre, tu n'es pas comme nous, tu as les cheveux crépus. Hein.
C'est comme Gérald, je sais pas si tu as remarqué, Gérald, mais ils ont rajouté des choses sur les tables là devant nous au studio. C'est marqué ne pas tripoter les câbles pour une émission gay. Okay. Bon, allez, oui, on enchaîne.
Alors, c'est vrai que, bon, oui, mais là, on accepte le tripoter les câbles entre nous, on accepte. Mais c'est vrai que peut-être que lorsque des femmes sont un peu cataloguées par leurs cheveux, leur tenue vestimentaire, etc., ça devient relou, effectivement. Comme un peu les gays, parfois un peu relou.
Mais bon, un beau goût de tondeuse. Voilà.
Après, je pense quand même que c'est vrai qu'il y a pire, qu'il y a encore pire, mais ça fait partie d'un ensemble.
Bien sûr.
Voilà. Moi, je dirais que, moi, ce que je noterais aussi, c'est que les femmes noires, donc, parce que j'ose pas dire black, parce que certains me disent black, que finalement, c'est raciste. Alors, je sais plus quoi dire. Moi, j'en ai parlé.
Ce qui est dit d'ailleurs dans le documentaire, c'est que la difficulté à dire noir en français est aussi symptomatique de ce de ce racisme inconscient. Donc, je crois que la plupart des intervenantes dans le documentaire préfèrent justement se dire noir, qu'on les dise noir plutôt que black, par exemple.
Ouais.
Alors, ou je sais pas.
Alors moi, je me dis aussi qu'une femme noire, donc, aura beaucoup de discrimination, puisqu'à au sein même de sa société, elle peut subir aussi des propres discriminations, enfin, de sa société, je me comprends, de la société en général, déjà en tant que femme, mais aussi dans certaines cultures noires, donc, et on peut dire quand même que ce sont des cultures machistes. On peut penser, par exemple, à l'excision des jeunes filles, qui existent encore, bon, même si c'est en diminution, mais c'est une pratique qui existe encore en Afrique et qui existe aussi en France, dans les quartiers où se retrouvent des ethnies d'origine africaine. Des choses comme ceci existent aussi. Et je veux dire, à l'intérieur même de la communauté noire, donc les femmes subissent une discrimination aussi qui est celle de leur propre culture.
Oui, et puis qui est aussi générale, qui est propre à la société, puisque la société est patriarcale, elle est sexiste. Donc, évidemment, les hommes noirs comme les hommes blancs sont aussi imprégnés de cette culture patriarcale. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins sexistes que les blancs.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a ce combat à mener. À la fois contre le racisme et contre le sexisme, et avec les difficultés que ça engendre parfois.
Là, je t'entends pas très très bien, Romain.
Alors, je vais me rapprocher peut-être. Je vais me rapprocher du téléphone, voilà.
Mais je trouve aussi. Romain, dans ce que tu dis sur ce documentaire, là, ce qui a l'air d'être intéressant, il faut inviter tous les auditeurs à aller le voir, c'est la violence symbolique. Cette violence qu'on voit pas. Oui. Et je pense que du coup, on a beaucoup à apprendre. Surtout sur les femmes noires, justement, c'est un bon cas d'école quand même, des choses qui nous apparaissent pas. Alors, parce qu'il y a le racisme, on va dire, évident, celui, l'insulte, le regard, etc. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas.
Oui, tout à fait, oui. Et je crois d'ailleurs que tu es allé voir le documentaire qui est sorti sur Angela Davis,
Oui.
Free Angela.
Oui.
Voilà, là. qui est aussi évidemment Angela Davis, qui est aussi une des références de ce mouvement afro-féministe. Et justement qui se cherche aussi peut-être, qui n'a pas de figure de proue reconnue en tout cas à l'extérieur du mouvement, dehors des personnes engagées pour l'afroféminisme. Les gens ne savent pas forcément, n'identifient pas une personne. C'est ce que je dis dans mon édito, c'est que le féminisme en France, souvent, on parle d'abord du féminisme au singulier et pas des féminismes. Et souvent, le féminisme qu'on met en avant, c'est un féminisme qui est très blanc, qui est un peu, c'est le féminisme Elisabeth Badinter, très blanc, très bourgeois, et puis très prompt aussi à s'ériger en normes et en modèles. Mais je crois que c'est une des vertus de ce documentaire aussi, c'est de montrer qu'il y a d'autres modèles possibles, d'autres féminismes. Voilà.
Donc, le documentaire sera visible
à l'UMC. Ça s'appelle Ouvrir la voie et il est réalisé par Amandine Gay.
D'accord.
Qui en plus a un nom de famille magnifique. Hein. On ne peut que la soutenir dans Pluriel Gay.
Voilà, absolument.
Elle était née pour, voilà. pour ça.
Ouais. Exactement, donc ça sera donc à la fin du mois. Mais alors, en ce moment-là, je vais remettre toutes les infos hein, sur toujours pareil, hein, sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, on pourra avoir les dates précises.
Le 17 et le 30.
Donc à Lyon 2 et au Périscope de date.
Exactement.
Et ça sera la seule occasion de pouvoir découvrir ce documentaire à Lyon.
Pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a pas de. En fait, c'est un documentaire qui a été produit par financement participatif, par crowdfunding. Parce qu'en fait, au départ, Amandine Guest était tournée vers le CNC, le Centre National de la Cinématographie, et le CNC n'a pas retenu son projet. Donc,
d'accord.
Elle n'a pas bénéficié de ce financement. Donc, le film étant réalisé, enfin, financé par crowdfunding, c'est extrêmement compliqué pour lui, pour l'instant, de trouver un distributeur. Il n'a pas de distributeur, et donc, pas de sortie nationale en salle prévue. Donc, pour l'instant, il y a uniquement des avant-premières. Ça a commencé en fin d'année, principalement en région parisienne. Et là, ça descend un peu dans le reste de la France. Il y en a, je pense qu'il y en a un peu partout dans les grandes villes en France. Deux à Lyon, puisque la première au Périscope est complète. Donc c'est encourageant en tout cas de voir que c'est un film qui a visiblement un public, qui répond visiblement à une attente. Et je pense qu'il faut aussi y aller pour ça, pour que le film puisse trouver un distributeur, pour montrer au distributeur qu'il y a un public pour ce genre de film. Amandine Gay, d'ailleurs, parle, les personnes qui sont interrogées, les femmes qui sont interrogées dans le documentaire, parlent aussi de la difficulté de défendre un film avec que des intervenants noirs, ce qui est le cas de ce documentaire. Parce que on dit « Ah, ben, c'est un film de niche, c'est un film pour les noirs, donc il n'y a pas un marché suffisant, etc. » C'est les thématiques, c'est les problématiques qu'on rencontre aussi d'ailleurs pour les films guerre, avec une, à la fois, bon, évidemment, il y a des films gays qui trouvent des distributeurs, qui rencontrent même un grand succès à la fois public et critique comme La Vie d'Adèle, mais à côté de ça, qui est réalisé par un hétéro d'ailleurs, ça peut être aidé, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de films gays et lesbiens qui n'arrivent pas à se monter, à se financer, à être distribués parce que c'est considéré comme un marché de niche. Ce qui n'est plus depuis longtemps, je pense.
Oui, parce que tous ces documentaires ou ces films, c'est des fenêtres ouvertes un peu sur des thématiques qui finalement peuvent être abordées de cette façon-là, pour un large public aussi, finalement. C'est pas réservé, c'est toujours ça. On a toujours l'impression qu'il y a comme un effet d'entonnoir. Et par exemple, je pense au documentaire de Sébastien Lifitz, Les Invisibles. C'est un thème très... C'est une fenêtre qu'on ouvre sur un sujet thématique très particulier, mais qui est un peu intéressé tout le monde, quoi. C'est pas réservé à un groupe d'individus, quoi. Et là, c'est pareil, je pense... C'est des problématiques, ça soulève des problématiques et puis des questionnements qui concernent tout le monde en réalité.
Ouais.
Puis il faut être un peu curieux, tout simplement, parce qu'il y a des choses aux côtés desquelles on peut passer. Et là, c'est des films, justement, c'est des fenêtres ouvertes sur des aspects bien particuliers, mais qui concernent tout le monde, quoi. Voilà.
Il y a aussi un côté dynamisant, je trouve, de voir ce genre de documentaire.
Ouais.
Bah, c'est vrai qu'on en sort, on a envie de... ça donne aussi envie de se bouger pour que les choses changent. C'est, ça met un peu du baume au cœur et te dire que, voilà, enfin, je veux pas faire être niais, mais voilà, en cette année 2017, c'est important de se rappeler que l'engagement politique, l'engagement militant, c'est important.
Oui. Déjà avoir conscience de ça, de ces sujets qui ne sont pas toujours abordés disons par des médias, de larges médias, c'est important, des médias importants. Voilà, là.
Et je pense que malheureusement, les discriminations que subissent les Noirs en France, ce ne sera pas un thème majeur de l'élection présidentielle, à mon avis. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je ne pense pas trop, donc. C'est bien d'en parler.
Ben, il me semble que j'entendais aujourd'hui que Marine Le Pen avait fait donc avait lancé un petit peu, je dirais, sa campagne électorale pour les présidentielles. Et il me semble que ce thème-là était absent parmi d'autres.
Oui, étrangement.
Bizarre. Je n'ai pas compris pourquoi.
Je pense qu'il y a des sujets. Il y a des sujets beaucoup plus importants comme les frites à la cantine et ce genre de débat.
L'identité nationale aussi. Voilà. Alors, donc, ton éditorial. L'éditorial d'Hétéroclite, que tu rédiges la plupart du temps, concerne ce documentaire alors ?
Oui.
D'accord.
Oui, ça aurait pu. En fait, ça aurait pu faire l'objet aussi d'une interview. Voire d'un grand entretien avec la réalisatrice. Le problème, c'est qu'on ça s'est organisé assez tardivement, dans la deuxième quinzaine de décembre, alors que le journal était déjà quasiment bouclé. Et si vous voulez tout savoir, j'en parle dans l'édito, parce qu'il nous restait plus beaucoup de place pour en parler ailleurs, et qu'il fallait quand même, je trouvais que c'était dommage de passer à côté.
Alors, si on extrait quelques sujets abordés par Hétéroclite du mois de janvier... sur quel sujet, justement, tu aimerais mettre un coup de projecteur ?
Eh bien, peut-être un autre documentaire. Tu parlais de Sébastien Lifshitz tout à l'heure et de son film Les Invisibles. Et dans le numéro de janvier, alors c'est encore un article que j'ai écrit moi, je parle du nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz, Les Vies de Thérèse.
Ah oui, on en a parlé déjà.
Voilà. Qui est un portrait donc de Thérèse Claire, qui est une grande militante féministe et aussi lesbienne, qui a disparu il y a un an de cela. Et Sébastien Lifshitz l'a filmée dans ses derniers mois alors qu'elle était atteinte d'un cancer. Donc c'est vraiment un portrait qui est très doux, très tendre. Sur une dame qui sait qu'elle va mourir, mais qui en même temps est toujours pleine de vie et qui se remémore ses différentes vies, sa vie de femme mariée, sa vie de militante, sa vie de femme divorcée qui élève seule sa plus jeune fille et qui héberge dans son appartement un peu tous les contestataires, tous les gauchistes, tous les 68ards des années 70. Donc voilà, c'est un très beau portrait d'une très belle dame. Et ça passe à Grenoble, parce qu'en fait, le documentaire a été diffusé sur Canal+ cet automne. Il a été présenté avant cela au dernier Festival de Cannes, mais il n'a pas de distributeur, pas de distribution nationale. Donc pour le voir, c'est un peu compliqué si on n'a pas Canal+. Donc il y a des projections comme celle-ci. C'est le 24 janvier au cinéma Le Club à Grenoble.
Oui.
Et c'est organisé par nos amis de l'association Vue d'en face, Festival international du film LGBT de Grenoble, actuellement pour conserver leur subvention auprès de la région, parce que ça a l'air assez mal engagé.
Oui, ça c'est sûr. Oui. On en a déjà aussi parlé ici des ressources, hein, se tarissent pour les festivals LGBT, puisque la région est en train de couper toutes les subventions qui étaient jusque-là octroyées aux différents festivals Rhône-Alpins, hein, donc celui de Saint-Étienne, celui de Grenoble et aussi Écran Mixte ici à Lyon. Ça, on en a déjà parlé et on aura l'occasion encore d'en reparler. Alors, ça me permet de rebondir un petit peu avant de te laisser parce que je t'ai parlé des prévisions de Madame Soleil. Qui c'est qui va remporter l'élection présidentielle, Romain? Est-ce que tu as regardé dans ta boule de cristal?
Elle se prend pour Madame Irma, l'autre.
Irma Russo. J'ai voulu regarder dans la boule de cristal, mais c'était beaucoup trop trouble, trop boueux. Donc malheureusement, je n'ai...
Il y a de la buée, parce que c'est l'hiver.
Ouais, il y a de la buée. Je n'ai aucune visibilité, malheureusement.
Ça va, c'est
je ne mouillerai pas à faire un pari.
Si au moins ces élections permettaient de pouvoir évoquer un certain nombre de sujets, de remettre sur le tapis l'égalité des droits, de pouvoir... Voilà, si au moins ça pouvait servir à ça, ça serait chouette.
Oui, enfin, je pense que ça sera le débat, ça sera sur l'islam comme d'habitude. Hein. Les thèmes principaux, il n'y a pas trop de suspense. Hein. C'est un peu toujours sur les mêmes contacts, donc ouais, voilà. Prévision pessimiste pour 2017.
Tu es pessimiste, Romain?
On le réinvitera plus, hein, Romain.
C'est vrai que l'émission est plombée, là. Hein. Depuis le début,
ouais, là,
on...
Ouais. Voir l'année est plombée.
On parle pas assez des vieux non plus qui se poussent pas dans le métro.
Des...
Sous prétexte qu'ils sont vieux quand il y a trop de monde.
Ah oui.
Hein, qu'il y a trop d'affluence. Bah voilà. Ouais. C'est un sujet qu'il faudrait évoquer.
Ce sera peut-être le thème de mon prochain édito, alors.
et donc, dans ce numéro, on a aussi la recette de cuisine.
Exactement.
Ah là là.
Ça, c'est génial, ça.
C'est incroyable.
Ouais, hein. Ça, c'est drôle.
Ça, et puis l'hétéroclitomètre. J'adore.
J'ai pas vu ça. C'est quoi?
Eh ben, explique-nous, Romain, ce que c'est.
Alors, la recette du mois, bah, c'est une recette de saison, hein, et puis d'actualité, puisque c'est une galette des reines.
Mmh. Ah.
Voilà. Une galette des reines empoisonnée en hommage à Catherine de Médicis. Alors Catherine de Médicis, il faut le savoir, c'est elle qui a importé la mode des desserts, et notamment de la galette à la frangipane, à la cour de France.
Mm-hmm.
Donc au XVIe siècle.
Ouais. Ça a apporté beaucoup de choses, a apporté la fourchette, il paraît aussi, l'usage de la fourchette.
Oui. Mm. On lui doit beaucoup, et la frangipane en fait...
La langue de pute aussi, mais vraiment, c'est autre chose. Pardon, Romain.
La frangipane, en fait, ça vient de la Toscane, dont était originaire Catherine de Médicis. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée, c'est via Catherine de Médicis qu'elle est arrivée en France. Et les mauvaises langues racontent que si elle a introduit en France la galette des rois, donc la galette à la frangipane, c'est parce qu'elle pouvait plus facilement y glisser du poison, étant donné que le cyanure avait le goût un peu de l'amande amère.
D'accord.
Donc,
c'est très raffiné.
Moi, j'imagine le chef cuistot qui a goûté pour la première fois du cyanure. Ça a un peu le goût de... D'accord, bon, on n'en saura pas.
Donc, pour lui rendre hommage, on propose une galette des rois galette des reines empoisonnée.
D'accord. L'occasion de tirer les reines, mais d'une façon
bien particulière. Attention, c'est pas la galette des reines. C'est pas on tue un reine et puis on le met dans une tarte. Non, c'est pas... Voilà, on a bien compris.
Bon, très bien. Et c'est quoi alors?
L'hétéroclitomètre.
L'hétéroclitomètre, voilà, j'arrive jamais à prononcer.
L'hétéroclitomètre, donc c'est un classement des événements de l'actualité du mois écoulé, classé sur une échelle qui va de 0 à 100%. Donc il y a des infos graves et des infos un peu légères. Dans la deuxième catégorie, par exemple, puisque vous savez que Laurent Ruquier a été aperçu à une garçon sauvage.
Ah bon?
Ah oui, ça j'avais entendu.
Ah ouais?
Oui.
Et ben, c'est le genre d'information essentielle.
Avec Stevie ou sans Stevie?
Sans Stevie, je crois.
Sans Stevie.
Sinon, on l'aurait précisé, hein, tu penses bien.
Ouais. Il paraît, oui. Voilà. Oui.
D'accord.
Il y a également la TF1 qui a suspendu les feux de l'amour pendant les vacances de Noël. Mmh.
Ah mmh.
Ça, c'est...
Je m'en suis pas rendu compte.
Si, les gens voilà,
et d'ailleurs, l'horaire ne va pas être l'horaire de janvier, là, ne va pas être l'horaire habituel. Le même.
Ah, oui.
Il y a un changement d'horaire et ce matin, je crois que c'était sur France Inter, il y avait un reportage pour savoir un petit peu si les téléspectateurs allaient suivre ou pas.
Donc, ça, c'est un sujet qu'il faut évoquer au présidentiel.
Oui, voilà.
L'horaire des feux de l'amour.
Il y a mais 15 minutes, ça bousille tout. Hein.
Ouais, non, mais
ça décale leur sieste, du coup.
Il y a des choses dont on ne parle jamais, qui sont primordiales, c'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. Bon, quelque chose d'autre à rajouter, Romain, avant de fermer cette page hétéroclite?
Non, lisez Hétéroclite, allez sur notre site hétéroclite.org. Et l'interview aussi pour les fans de, avec François Sagard, que j'ai eu le plaisir d'interviewer.
Tiens,
le 28 janvier.
On ne se prive de rien. Ouais.
Mmh. Ah oui, il vient faire une soirée à l'usine, non, c'est pas ça?
Oui, tout à fait, le 28 janvier, la V.
La V.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est que l'usine, pardon?
V comme
c'est un nouveau lieu qui est prisé par les soirées électro, enfin c'est ce que j'ai compris. Hein.
Ok.
C'est l'ancien Sound Factory, en fait, ça s'appelait comme ça.
Ah, d'accord.
C'était dans le 9e arrondissement.
D'accord.
Bien. Bien. François Sagard sera là.
Très bien.
Il est tout petit, François Sagard, je l'ai croisé une fois.
T'es vrai?
Il est plus petit que moi.
Ah oui?
Oui.
Ah bah il est vraiment encore très petit.
Il est petit, hein, Romain, on est d'accord?
Bah moi je l'ai pas vu, en fait.
Ah d'accord, tu l'as eu au téléphone.
Ah d'accord.
Il l'a pas vu de
près. Malheureusement.
Il l'a pas vu de près.
Moi je l'ai croisé. Il est petit.
Je vais raconter. Pas en
Bon, et ce mois-ci, je crois que l'iconographie de couverture, c'est les Zooplas, c'est ça, ou je me trompe?
Oui,
ouais,
c'est toujours Marion Bornaz, la photographe.
C'est des Zooplas qui sont en couverture de
Dreadcourt.
En couverture, effectivement, ce sont des Zooplas qui servent de cache-sein, en fait.
Voilà.
Ça annonce une année plate, en fait, c'est ça. Sans saveur.
Non, je pense qu'on est en train de lancer une nouvelle mode et que cet été, l'âge, toutes les femmes et toutes les filles auront des œufs au plat en guise de cache-cache. Et on pourra dire, on l'avait vu dans Hétéroclite en premier.
C'est après vrai. Le slip français, le soutien-gorge en œufs au plat.
Oui. Hétéroclite, voilà. Lanceur de tendance.
Voilà. Exactement.
Pourquoi pas?
Ben oui.
Remarque, c'est déjà plutôt le cas.
Très bien. Eh ben, écoute, Romain, merci d'avoir participé une nouvelle fois à notre émission. Et puis, encore une fois, bonne année à Hétéroclite.
Merci. Voilà.
Et je pense que la prochaine fois, il faudra mettre peut-être un steak tartare en couverture, parce que je pense quand même que les mois qui vont venir, politiquement, ça va être sanglant.
Oh.
J'ai l'impression. Enfin.
Eh ben, j'en parlerai à Marion Bornaz dans
notre photographe. Ok. Merci, Romain. Bonne soirée.
À bientôt.
À très
bonne
bientôt.
Soirée, Romain.
Voilà. Alors, au revoir, Romain. Donc, avant d'écouter le deuxième morceau, je veux juste revenir vite fait sur George Michael. Ouais, parce que là, on va écouter un morceau qui s'appelle Outside. Mmh. Et Outside, c'est un morceau qu'il avait sorti, tu sais, Jeffrey, justement à l'époque où il a été outé dans ses toilettes publiques.
Et qu'il avait sorti son morceau, justement.
Voilà, c'est un nouveau morceau. C'était un morceau différent habituellement. En tout cas, il l'avait fait en public, puisque... et à l'époque, effectivement, un policier en civil était... Des policiers en civil qui étaient chargés, justement...
De chasser les...
Voilà, de chasser, de repérer les gays qui draguaient comme ça dans les toilettes publiques.
C'est un faux attentat à la pudeur, alors.
Voilà, exactement. Et du coup, alors Elton John a dit que tout de même, pour un coming out, c'est pas très glamour faire ça dans des toilettes. Hein, Elton John, qui était une grande copine.
Ah, bah c'était une grande copine, oui.
Et donc.
Don't let the sun go down on me.
Bon, bah, en tout cas, c'est ainsi qu'en avril de 1998, on a appris que...
On n'était pas nés, nous aussi. Hein,
voilà.
T'étais pas né, Boris, quand même.
Enfin, en tout cas, c'est là qu'on a su que...
Ma mère est extrêmement déçue, elle est amoureuse de George Michael.
Oui, mais alors, franchement, moi, j'avais toutes mes copines quand j'étais gamin.
Ah oui, elles étaient toutes amoureuses de George Michael.
Mais je leur disais, arrêtez, vous voyez pas qu'il est pédé comme un phoque. Et elles me disaient, mais non, façon, toi, tu vois des pédés partout, partout. Et bien, qui c'est qui avait raison?
C'est toi, Gérald.
Voilà, exactement.
Mais François Fillon, hein, personne sans doute. Bon, c'est pareil.
Il y a quand même des doutes. Enfin, je veux dire, pas des doutes, mais des... comment dire, des
suspicions.
Des suspicions liées à des faits de sa vie qui sont des faits publics. Mmh. Et oui, mais nous n'en dirons pas plus.
Oh, on n'en dira pas plus.
La semaine prochaine.
Parce qu'on n'y était pas. À la semaine prochaine. On va inviter Alain Juppé, alors.
Donc, pour revenir à George Michael. Mmh. George Michael, donc il a sorti suite à ce coming out qui a fait la une des tabloïds du monde entier. Il a même eu une interview chez Oprah Winter, la célèbre...
Oprah Winfrey, mais bon, c'est pas grave. Ophélie Winter, c'était effectivement les années 90.
Ah oui, c'est vrai.
Oprah Winter, allez hop. C'est vrai.
Qui n'est pas décédé cette année.
Hommage.
Qui n'est pas morte.
Enfin bref. Voilà,
c'est la seule qui n'est pas morte.
Celle que tu as dit. Bichette. Et il a donc, ça a fait l'objet de beaucoup de shows, d'interviews télévisées, d'articles dans les journaux. Et il a sorti à l'époque donc un tube, donc c'était plus à l'époque de Wham, il était déjà en solo, George Michael, il s'appelle Outside, il dit explicitement, bah, finalement l'amour on peut le faire n'importe où, dehors, aller dehors pour faire l'amour, quoi. Sur des rythmiques un peu...
Sortez vos oiseaux.
Très, très disco-gay, je dirais, ouais, voilà, c'est ça.
Sortez vos oiseaux.
On va écouter Outside, puis après on revient avec toi, Jeff Rage.
Allez.
La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Et voilà, nous sommes de retour avec Boris à la régie et Jeffrey dans le studio.
On parlait bouffe encore.
Oui, voilà, c'est ça. On était en train de dire du bien de nos voisins. En fait.
Et du mal aussi.
Et du mal, surtout.
Sur les restaurants voilà. À Lyon.
Mais nous ne ferons pas de coucou.
Non, on ne dira pas qui.
On ne dira pas qui. Alors, donc, t'as vu, je me suis mis en position, on ne me voit pas, mais de près.
Ah oui, on dirait Madonna qui chante
Like a Prayer.
Like a Virgin.
J'ai envie de chanter ce soir, je ne sais pas ce que j'ai.
Moi, j'aurais dit Like a Virgin.
Like a Virgin, ah oui, c'est vrai.
C'est alors, ça, oui.
Mais oui, je suis vierge, vous savez.
Prends-nous pour des billes.
Alors, en tout cas, j'ai décidé cette année d'inaugurer une nouvelle petite chronique.
Ah oui.
Voilà. Alors, ça, une petite chronique, ça, un portrait chinois. Un portrait chinois. Donc, toi, tu me disais,
qu'est-ce que c'est qu'un portrait chinois ?
Voilà. Alors, un portrait chinois, il faut savoir que c'est un jeu très ancien qui permet de découvrir certains traits de personnalité de la personne à qui on pose la question. Alors, ça a été très à la mode. Au 18e, dans les salons aristocratiques, que j'ai bien connu, évidemment. Chez la comtesse du Barry.
T'as gardé, voilà, la comtesse du Barry, t'as gardé.
Madame de Pompadour. Bon, et après, donc, au 19e siècle, c'est devenu très à la mode, à tel point qu'il y avait des portraits chinois, tout le monde avait son portrait chinois, chaque écrivain avait fait son portrait chinois, et il y avait le questionnaire de Proust.
Ah, alors, mais ça, je connais le questionnaire.
Voilà, ben, c'est un portrait chinois, le questionnaire de Proust, sauf que, comme c'est du Proust, évidemment, il y a 20 000 questions, hein, et chaque question, c'est 3 pages à chaque fois. Donc, moi, j'ai simplifié, je me suis basé là-dessus, j'ai simplifié, et il faut savoir aussi que Bernard Pivot, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Oui, bien sûr. Voilà. Qui n'est pas mort cette année d'ailleurs.
Oui, voilà, précisons-le. Apostrophe, bouillon de culture.
Bouillon, voilà, bouillon de culture. Ouais.
De culture.
Les huîtres cuites, enfin bon, toutes ça, ces émissions-là de culture.
C'est là qu'on dit qu'il y a une couille dans le potage d'ailleurs, mais bon.
Ah, c'est l'émission de rentrée là.
Oui, voilà. Alors du coup, lui, il avait aussi un questionnaire qui s'était basé aussi sur le questionnaire de Proust. Moi, j'ai mixé un peu les deux, raccourci. Et je vais donc te poser des questions.
Ah, c'est sur moi donc alors.
Voilà, bah oui, ça va tomber sur toi. C'est toi qui vas faire le cobaye parce que la plupart de mes invités, je vais leur poser des questions.
Mais j'aime pas trop les Chinois donc c'est pour ça que ça me.
Oh, mais non, faut pas dire ça.
Pardon.
Il paraît que c'est ton surnom.
Ah oui, c'est vrai.
Le Chinois.
Comment ça, qu'est-ce que c'est que cette
histoire ? Le petit Schnau. Le petit Schnau, il m'appelle.
Ouais.
Ah oui.
Oui.
Ah ouais. C'est son surnom, mais on n'en saura pas plus. Mm-hmm. Non, c'est parce que le matin, quand il se lève, elle a les yeux en trou de pine, on a l'impression que c'est un Chinois. C'est
pour ça, après. Et puis, elle est toute petite aussi. Quand je... Bon, enfin, bon, bref, ça c'est autre chose. Allez.
Son portrait chinois. Voilà, donc, je vais préparer 12 questions.
12 questions, oulala. Alors, voilà. Vite, attention. Banque. Ah non, pardon, c'est pas la même émission.
qui sont censés justement mettre en avant des traits de ta personnalité.
D'accord.
Voilà. Alors. Jeff et Jordan, portrait chinois. Ce soir, on n'a pas besoin de jingle.
Oui, voilà, je
fais
des jingles.
Pas pour de la musique, d'ailleurs. Donc, la qualité que vous préférez chez quelqu'un, que tu préfères, on va le faire.
Oui, que je préfère chez quelqu'un, ouais. La constance.
D'accord. C'est tout.
Ouais, pardon, il faut développer.
Ah bah,
non,
si
parce
veux,
que j'aime bien quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un n'est jamais décevant, s'il l'est un jour, je trouve que du coup, ça, voilà. La qualité de la constance, je trouve que c'est bien.
Oui, bien. Voilà. D'où l'important d'être constant.
Voilà, c'est ça. De rester soi-même tout le temps.
Ton principal défaut ?
Mon principal défaut ?
Enfin, faut demander aux autres, faut pas demander à lui.
Faut demander aux... Oui, mais c'est bien d'en avoir conscience aussi, je pense.
Voilà,
c'est pour faire des bonnes résolutions dans l'année.
C'est aussi un questionnaire introspectif.
Mon plus gros défaut, je crois que je prends pas beaucoup de temps pour mes amis. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte.
Alors, la question, est-ce qu'ils s'en plaignent ou pas ?
Assez peu, parce qu'ils comprennent pourquoi.
D'accord.
Ils savent pourquoi. Sinon, ce ne serait pas des amis.
Alors, quelle est ta drogue favorite ?
Oh là là.
Alors, drogue, hein, c'est
oui,
n'importe quelle addiction. Non, c'est pas seulement celle que tu prends.
Je ne pourrais même pas dire que je fume de l'herbe. Non, mais en plus, c'est pas vrai. La plus grosse drogue, je crois
ta
que...
Ta drogue favorite ? Mais ça peut être la musique. Ça
oh,
peut...
le rire.
D'accord.
Ah oui, si je...
T'es drogué.
Ah, la musique aussi, oui, c'est pas mal. Parce que je ne peux pas vivre une seule journée sans musique.
Tu aimes rire.
Ah oui, j'adore. Alors moi, c'est un truc.
Parce que
je prends tout en dérision, c'est-à-dire que alors c'est peut-être aussi un défaut d'ailleurs.
Mais j'entendais des humoristes qui n'aiment pas du tout rire dans la vie. Enfin, qui sont assez tristes. Je crois que c'est Anne Roumanoff. Non, mais Anne Roumanoff, par exemple, expliquait que elle aimait bien faire rire les autres, mais qu'elle se considérait pas comme une personne
drôle
qui aimait rire. Ouais, qui aimait rire.
Je elle confirme, était plutôt, voilà. Oui, moi qui ai travaillé un peu avec elle.
Ouais.
Ça m'avait marqué.
C'est drôle dans la vie. Ouais, mais oui. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je...
Tu aimes rire, déconne tout le temps.
Tu aimes aussi peut-être le rire des autres.
Oui, c'est faire ça. Rire c'est surtout le rire des autres aussi.
Quand tu es en spectacle, par exemple, le fait, c'est ta récompense.
Ouais, quelqu'un qui va, même quelqu'un dans mes amis, quelqu'un qui va rire sur quelque chose qui, moi, ne va pas me faire rire, bah, je vais rire quand même, du coup. Parce que j'aime ça, en fait. Voilà.
Ton mot préféré ?
Beat.
D'accord.
Ah oui, d'accord.
On va pas développer.
Parce que je trouve que c'est à la fois vulgaire et à la fois mignon. Voilà, c'est pas, il y a des consonances vulgaires. Couille, je trouve que c'est vulgaire.
Ah oui.
Beat, je trouve pas ça vulgaire. Je trouve que ça beat, ça peut être un bruitage aussi. Et je trouve que beat, on peut le mettre partout. C'est ou drôle ou scandaleux ou mignon ou c'est-à-dire que ça s'adapte avec tout.
On peut dire aussi, tu as le beat dans le sens le rythme.
Le beat, voilà.
Le mot que tu détestes.
Oh là 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 là. J'aurais pas pu l'avoir avant ce questionnaire pour réfléchir.
Ah non.
Le mot que je déteste le plus.
Bah, je sais pas, il y en a bien un que t'aimes pas.
Rejet.
Tu disais couille. Ah, rejet. Rejet.
Voilà. Le rejet.
Parce qu'il représente.
D'abord, c'est un mot qui est pas beau, encore une fois, au niveau de la consonance. Et puis parce qu'il représente beaucoup de choses.
Alors, un son ou un bruit que tu aimes ?
Ah, un bruit, un son.
Ces petits oiseaux le matin
non,
quand tu travailles.
Ça me fait chier. Parce que le matin, je dors. Le vent.
D'accord.
J'aime bien le bruit du vent. Voilà.
Ok. Un son, un bruit que tu détestes.
Le ronflement de mon chien.
Ah, parce que t'as un chien.
Oui, un carlin.
D'accord.
Un carlin bulldog. Alors, c'est une horreur parce qu'ils ont la cloison nasale
écrasée.
Donc,
ils ronflent tout le temps. Ah ouais. Éveillé ou...
Voilà. C'est ça en permanence.
Ça bave aussi, non ?
Non, pas du tout. Lui, il est assez propre d'ailleurs. Mais non, le problème, c'est qu'il ronfle la nuit. Et des fois, quand il dort dans la chambre, c'est... Voilà. Donc, le ronflement de mon chien.
D'accord. Alors, ton personnage de fiction préféré ? Alors, quand on dit fiction, ça peut concerner tous les domaines, hein, littérature, cinéma, théâtre.
Oh là là. J'aimais bien Harry Potter quand j'étais petit. Mais bon. J'aime bien les personnages moi j'adore Bernard Werber, j'adore cet auteur et bon, c'est un peu commercial mais j'aime bien les personnages qu'il y a dans ouais mais alors si on demande un seul héros peut-être je sais pas, j'aime bien Deadpool. J'ai découvert le film il y a pas longtemps, c'est un Marvel assez drôle et je trouve que le personnage est drôle. Voilà.
C'est un personnage un peu décalé je crois quand même.
Ah oui, complètement, oui.
Alors, le personnage public préféré, ton personnage public préféré, ça peut être encore une fois un politique, un artiste.
Sans partager ses convictions politiques, mais je trouve que Marine Le Pen a une façon de faire incroyable, quoi. Je trouve que c'est la personnalité médiatique à la fois la plus mystérieuse et en même temps la plus... je sais pas, il y a quelque chose qui émane de ses discours politiques ou même de sa façon de parler dans les médias. Je trouve que... C'est fascinant en fait. Peut-être pas dans le bon sens du terme, mais voilà.
Alors, le métier que tu n'aurais aimé, que tu n'aurais pas aimé faire.
C'est forcément des métiers du matin, hein, parce que moi je suis pas du tout du matin. Donc ce serait boulanger, ce serait. Que j'aurais pas aimé du tout faire, je crois que. Trader.
D'accord.
Voilà, où on dort pas beaucoup et où on parle de chiffres et plus on en a, plus on en veut. Et je crois que c'est quelque chose que. J'aurais du mal à faire, ouais.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi lorsque tu n'es pas là ?
Il est un peu con, mais qu'est-ce qu'il est gentil.
Bon. Et en quoi aimerais-tu être réincarné ? Alors, tu as le droit à tout, hein. Tout ce qui existe sur la planète, végétal, animal,
En quoi j'aimerais être réincarné ?
N'importe quoi. Une personne, un objet, un minéral.
Un train incarné en cailloux, merci.
Ouais, tu dois te faire
chier. Il y a des jolis cailloux, un diamant par exemple, une émeraude.
Ah, bon, ça faut tomber sur le bon truc, quoi. Faut être au niveau de l'aiguillage quand on est réincarné, faut quand même avoir de la chance, non ? Je sais pas. Je sais pas. Réincarné en quoi ? Ouais, c'est compliqué. Hein.
En Jeffrey Jordan.
En musique.
En musique.
Ouais.
En note.
J'aimerais mettre une musique.
Ah oui, une musique.
Ouais. Voilà.
Qu'on a toujours sur le bout de la langue.
Voilà, c'est ça. Merci Gérald.
Voilà. Bon. Bah voilà, c'était tout.
Voilà. Portrait chinois. Ah, une musique, ouais.
Et donc, ça, Gérald, tu vas le proposer à tous les invités.
À ceux qui me plairont, ceux qui me plairont pas, je leur poserai
d'accord.
pas.
D'accord. C'est toujours la même question.
C'est toujours la même question. Ouais.
Et donc, tu as trié parce qu'il y a combien de questions dans ce portrait chinois normalement ?
Dans le questionnaire de Proust, il y en a moins de 50.
Ah, oui,
après, ça dépend. Un portrait chinois, tu peux le faire
d'accord.
toi-même.
Les
d'ailleurs.
Questions que tu veux, quoi. Hein.
Les questions que tu veux, ouais. C'est censé être. Les réponses doivent être spontanées, donc ça ne doit pas être préparé. Et c'est censé donner, illustrer un peu la personnalité de la personne. Quoi.
C'est très utilisé au théâtre, ça, le questionnaire de Proust. Pour ceux qui écrivent des pièces avec des personnages, ça permet de bien sculpter les personnages.
C'est vrai que le questionnaire de Proust, c'est un peu la Rolls-Royce hein, du portrait chinois, on dira. Hein. Après, bon, il est un peu vieilli quand même, parce qu'il a plus de 100 ans, donc déjà...
Si vous étiez une couleur, oh putain, vert.
Bref, voilà. Jeffrey, il est important de parler de ton actualité parce que tu en as toujours
eu. Oui,
une.
Avec plaisir.
Et tu as donc on en avait déjà parlé du spectacle, du nouveau spectacle, ici à la rentrée l'an dernier. Donc pourquoi les mouches?
Oui.
Alors pourquoi les mouches?
Qui a été coécrit par Martine Foresti, la tata de l'illustre Florence.
Ouais.
Et on a fait un gros travail vraiment d'écriture sur ce spectacle. On a bûché vraiment beaucoup, on a barré des choses, on a remis des trucs, on a eu 2 mois de rodage quand même, presque 8 séances de rodage. Donc une par semaine, ça a été un peu dur, faut pas le cacher au départ, parce que je change complètement d'univers par rapport au premier spectacle. Et là on est dans une écriture complètement absurde avec de la poésie où le rire n'est pas appelé à chaque coin de phrase, ce qui n'est pas le cas dans le premier spectacle où là on rit beaucoup à chaque situation, à chaque mot, mais j'ai voulu faire un truc complètement décalé par rapport à d'habitude, et les séances de rodage sont terminées, le texte est verrouillé, il est bouclé, il reste encore un peu de travail de mise en scène, mais l'essentiel est là, et sur les dernières séances, pour être tout à fait honnête, j'ai vécu 2 mauvaises séances où j'ai vraiment serré des dents parce que j'étais assez déçu du rendu, mais c'est ça qui est important dans le rodage. C'est que des fois on n'est pas forcément content de ce qu'on fait, et puis on a remis un coup de collier, et sur les dernières représentations par contre on est content parce que le public ressort effectivement en disant ah c'est différent mais c'est tout aussi bien. Donc du coup je me dis voilà, le travail que j'ai fait en 3 ans avec l'autre, le premier spectacle, et en même pas 6 mois pour celui-là, s'il a autant d'impact que le premier alors qu'on a travaillé plus vite, ben je suis juste tout aussi content, voilà. Ouais. Et donc on fait la grande première qui sera lundi soir
à l'espace Gerson.
Voilà, lundi soir à l'espace Gerson, lundi 9 janvier à 20h30. L'entrée est à 5 euros puisque c'est une soirée découverte.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est évidemment moins cher que d'autres spectacles. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille de venir. Voilà, et puis ça dure 1h, 1h10 à peu près. C'est pas très long. Voilà, c'est vraiment la grande première nationale, on va dire, avec des professionnels qui seront dans la salle. Donc c'est d'autant plus important de venir voir cette séance-là.
Oui. D'accord. Voilà. Alors jusque-là, le rodage, c'était donc au Tonton Flingueur.
C'est ça, exactement. Mmh. Voilà.
D'accord.
Donc là, on fait une première à l'espace Gerson. Et c'est un spectacle que je vais tourner à partir du mois d'avril prochain. Voilà.
Et l'ancien spectacle auquel tu as fait allusion, Jeffrey Jordan, continue sa folle. continue à tourner aussi.
Au Tonton Flingueur. Ce sera les dimanches à 21h au Tonton Flingueur jusqu'au 12 février, puis après ce sera de mi-mars à mi-avril au Complexe du Rire.
D'accord. T'as réussi à faire la transition entre les deux spectacles sans trop
Alors,
problème.
Il n'y a pas de transition à faire puisque c'est complètement différent et je tourne toujours les deux. Donc je vais tourner les deux en même temps.
Ouais.
Donc par contre, je monte à Paris certainement au mois de septembre prochain avec Jeffrey Jordan sa folle. Ça c'est un projet aussi, je devais y monter début janvier, puis finalement ça a été repoussé puisqu'il est préférable de faire une vraie rentrée parisienne, et les vraies rentrées théâtrales sont en septembre et non pas arriver au milieu de l'année comme ça. Donc voilà, et donc les mouches, je continuerai de le jouer sur Lyon certainement à l'espace Gerson à partir du mois de février.
Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, c'est le moment de s'y précipiter.
Voilà. Pourquoi les mouches?
Oui, c'est une question transcendantale en fait.
En fait, oui, voilà, et puis la réponse est tout aussi absurde que la question. Et puis après, c'est un spectacle à question en fait. Voilà, je joue un maître de conférence, c'est une pseudo-conférence.
D'accord.
Où je me pose des questions un peu à la, pas la con, quoi.
Ceux qui l'ont vu m'en ont dit du bien. Donc,
c'est vrai
oui.
D'accord.
Bon. Donc, il faut aller voir ça. Moi, je l'ai pas encore vu, mais je compte bien
bah oui,
te voir,
bien
évidemment.
Sûr.
Je voudrais, avec mon cher étant.
Ah, Gilou.
Je voudrais qu'il m'accompagne, oui. Voilà, donc, parce qu'après, on échange des impressions, tu comprends. On échange des impressions sur l'oreiller.
J'espère que ce n'est pas que la pression.
Merci Boris d'être venu, l'émission touche à sa fin. Mm-hmm. Nous allons devoir nous séparer. Merci d'avoir affronté le froid hivernal de ce soir pour venir jusqu'à nous.
Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés au chaud.
Merci Jeffrey d'avoir fait
Merci
le déplacement aussi jusqu'à
Merci.
Nous. Nous te retrouvons avec plaisir régulièrement à l'émission. Tu
oui.
es plus qu'un invité, tu es...
Oui.
Tu es fait partie des meubles.
C'est
voilà.
vrai. Je viendrai avec une chronique la prochaine fois. Parce
D'accord.
que là, je n'ai rien à part
voilà.
Et ma bouche ouverte.
C'est déjà pas mal. Et si, et si tout va bien, puis ça aère le cerveau. Tu
oui, c'est pour ça.
Voilà. Et si tu.
Enfin, avec des raisins secs dans la bouche, c'est pas.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.